des visages de l'Algérie, traverser ses couleurs, raconter ses légendes, ses dents, des villes et des histoires. Des villes et des histoires, une émission produite par Malika Lafer, réalisée par Saïd Boutelfa.
Djelfa est limitée au nord par les wilayas de Médéa et Tizimsilt et à l'est par Msila et Biskra. Elle partage ses frontières avec l'Arwat et Tcharet et au sud avec Walgla et Ghardaya. Située aux portes du désert, à 300 km au sud de la capitale, elle s'étend sur 32 280 km² et représente à elle seule 8,53% de la superficie totale de l'Algérie, comme elle couvre une partie des hauts plateaux steppiques. Dans nos deux précédentes émissions, nous avons vu que c'était le centre de l'importante confédération des Ouled Naïl, qui a eu à jouer un rôle historique, mais aussi une région peuplée depuis la préhistoire. L'occupation française en Algérie commença en 1830 et à Djelfa en 1843. Le premier fort de la colonisation fut construit en 1852. Les Ouled Naïl résistèrent à cette occupation et répondirent donc à la guerre sainte contre l'occupant. C'est pourquoi ils firent aussi allégeance à l'émir Abdelkader qui conduisit la révolution populaire en 1836. Et même après la reddition de l'émir, le soulèvement de Djelfa persista dans plusieurs soulèvements locaux. À propos de disparus, le poète dit: déjà la pierre pense où votre nom s'inscrit. Déjà vous n'êtes plus qu'un mot d'or sur nos places. Déjà le souvenir de vos amours s'efface. Déjà vous n'êtes plus que pour avoir péri. Ahmed Khaldin, en nous présentant son livre Rocher de sel, c'est aussi un hommage aux gens de Djelfa.
إن شاء الله ونولي ليك يا وطني ونطاش إن شاء الله ونولي ليك سامحني وارضع لي من بالك قول لهم صرنا بقدرات المليك المصرة في جميع الممالك
Monsieur Ahmed Khaldin, vous êtes donc romancier. On parlera dans quelques secondes de votre roman. Ancien cadre, artiste peintre, poète. Vous avez écrit un roman, une biographie romancée, édité chez l'Harmattan, Rocher de sel. Alors, c'est aussi la vie de Mohamed Ben Chérif Ben Sidi Ahmed. Alors, pourquoi avoir choisi ce personnage ?
Mohamed Ben Chérif m'a intéressé en tant qu'écrivain en langue française, ce qui n'était pas courant à son époque. Il ne faut pas oublier que Mohamed Ben Chérif a vécu, est né en 1879 et mort en 1921. Il a vécu 42 ans, à cheval sur deux siècles. Et à cette époque-là, l'érudition ou l'instruction en langue française était rare. Et c'est ce qui m'a attiré le plus, c'est que comment est-il arrivé à s'élever au niveau de pouvoir écrire un livre et de le publier à Paris. Donc il en a publié d'ailleurs deux. Le premier livre, c'est un récit de voyage. Dont le titre est « Aux villes saintes de l'islam », où il décrit le pèlerinage qu'il a effectué, d'ailleurs avec son frère et son père, qu'il ne cite pas dans le récit, mais j'ai retrouvé les traces de leur voyage collectif. Et son retour par la Palestine, d'ailleurs aux villes saintes de l'islam, il s'agit des trois villes de l'islam, la Mecque, Médine et Al-Quds. Donc il est revenu par la Palestine, il est revenu par la Syrie, où il a visité le tombeau d'Ibn Arabi. Il a rendu visite au tombeau d'Ibn Arabi et l'émir Abdelkader, qui était à cette époque-là enterré avec Ibn Arabi. Et ensuite, il est revenu par la Turquie, juste à la veille. Le pèlerinage s'est déroulé juste à la veille de la Première Guerre mondiale. Et à cette époque-là, vous imaginez un petit peu la Turquie, avec toutes les pressions qui existaient, les pressions politiques qui existaient à cette époque-là pour le démembrement et le dépècement de l'Empire ottoman, donc, et les jeunes loups turcs qui préparaient la révolution turque. Donc, et par la suite, ils sont revenus par l'Empire austro-hongrois, ils sont rentrés en France et puis en Algérie. Voilà pour le récit de voyage. Ensuite, ce récit de voyage a été publié en 1919, c'est-à-dire après la Première Guerre mondiale, et il a publié également un roman, et c'est ce roman-là qui allait faire sa célébrité, parce qu'il s'agit, Mohamed est le premier romancier d'expression française en Afrique du Nord. Et c'est à ce titre-là que j'ai été intéressé pour essayer d'écrire l'histoire de la vie de Mohamed Ben Chérif.
Alors, il faut dire que Mohamed Ben Chérif était officier donc de l'armée française, au 2e régiment Spahi. C'est dans les années 1800, donc il est né, comme vous disiez il y a quelques secondes, en 1879. La France est arrivée et s'est installée définitivement, donc un 20 février 1861. Racontez-nous un petit peu comment les choses se sont passées.
D'abord, je dois vous dire que Mohamed Ben Chérif était officier de l'armée française dans le 2e régiment de Spahis. C'est un officier d'académie qui a fait sa formation à l'école de Saint-Cyr. Il a fait sa formation à l'école de Saint-Cyr juste 2 ans après que l'émir Khaled ait fait dans la même école sa formation pour devenir officier de l'armée française également. Et d'ailleurs, c'était les deux seuls officiers qui ont été mobilisés lors de la Première Guerre mondiale. Mohamed Ben Chérif, il ne faut pas oublier que Mohamed Ben Chérif, c'est le petit-fils de Sheikh Chérif Bellaharch, qui a été le khalifa de l'émir Abd al-Qadr. Donc on retrouve un petit peu les deux petits-fils qui ont été formés dans la même école, ce n'est pas un hasard. Et ils ont retrouvé, si vous voulez, par leurs souvenirs familiaux chacun, les traces de leurs grands-parents qui ont combattu et qui ont résisté contre la pénétration française. Donc Mohamed Ben Chérif est né à Djelfa, et Djelfa est une place militaire qui a été instituée ou instaurée ou créée par la France, parce qu'il ne faudrait pas oublier que la région de Djelfa est une région steppique où les gens ont un mode de vie nomade, pastoral, nomade, c'est-à-dire que ce sont des gens qui bougent, qui ne sont pas sédentarisés, à part quelques petits villages, mais le reste de la population était nomade. Donc la ville de Djelfa est une création coloniale, des militaires coloniaux, de l'armée coloniale, qui ont créé une base forte dans l'arrière-pays, si vous voulez, de l'Algérie, pour pouvoir continuer la pénétration vers le Sahara.
Justement, juste après la grande insurrection qui s'est déroulée donc à la droite, ils ont décidé de créer leur base arrière ici à Djelfa.
Donc, avant de pénétrer à la Gouate, n'oublions pas que la France, pour pénétrer l'Algérie, elle a commencé d'abord par la côte. Elle est descendue à Sidi Ferruche. Et la prise de la Mitidja lui a été très douloureuse. Il y a même des tribus entières qui ont été complètement déplacées ou éliminées, comme les Beni Meled, les Beni Hajot, etc., qui ont subi un très lourd tribut face à la pénétration française. Et pour vous donner une idée, la France est restée coincée à Beni Mered, elle regardait les monts de Blida pendant 7 ans. Elle n'a pas pu pénétrer à Blida pendant 7 ans. Donc, vous ceci, ça s'est passé à la Mitidja. Alors, vous imaginez ce qui s'est passé à l'intérieur, au niveau de la steppe. La résistance au niveau de la steppe a duré plus de 70 ans. Vous imaginez toutes les populations, toutes les tribus, tout le peuple qui a été décimé et qui a subi pendant ces 70 ans de lutte contre la pénétration française. Donc nous connaissons les deux batailles, les deux insurrections des Oulets et des Chirs. Et dès les premiers mouvements insurrectionnels, dès la Moubaya al-Kobra, c'est-à-dire la grande reconnaissance de Abd al-Qadr au niveau de Gris, sous le grand frein de Gris, les Ouled Naïl se sont mobilisés derrière l'émir Abdelkader et à leur tête, il y avait Sichri Blahash qui était justement le grand-père de Mohamed Ben Chérif. Donc les Ouled Naïl ont participé d'une manière continue, sans s'arrêter, même après la détention de l'émir Abdelkader et de Sichri Blahash qui a été également détenu. L'insurrection a continué à travers les caïds et les chefs qu'ont laissés ces grands généraux algériens. Et l'un d'eux, c'était Teli Belkhal, qui se trouve être justement le grand-père de Djilali tout à l'heure.
Monsieur Ahmed Khairdine, je rappelle que vous êtes ancien cadre, que vous êtes natif de Jelfa, une ville que vous chérissez. Pour décrire bien la situation, je parle du Monseigneur Pavi, donc archevêque d'Alger, qui a béni en 1861 la première pierre de la nouvelle église, alors que le même jour, on exécutait le nommé Bouchdouga et ses complices. Vous dire que combien c'était terrible.
Voilà. Donc, la ville de Jelfa, je vous ai dit tout à l'heure, est une création coloniale, c'est une ville coloniale. Il y a d'abord eu la caserne qui a été construite. C'est autour de cette caserne que quelques familles éparses se sont agglutinées, etc. Mais disons que le siège, l'endroit où s'est construite la ville de Jelfa, a été déjà fréquenté par plusieurs tribus locales. Et ceci, c'est vers les années 1852. Parce que 1852, il y a eu la bataille de l'Aguate. La France ne s'est pas arrêtée simplement à Jelfa. Elle a continué sa progression vers l'Aguate. Et l'Aguate, c'était la première ville après Médéa. C'est-à-dire qu'entre Médéa et l'Aguate, il n'y avait pas d'agglomération. Il y avait simplement la petite bourgade de Bogar qui se trouvait au sommet d'une colline dans le nord. Mais il n'y avait pas de ville parce que les gens étaient nomades. Donc, comme l'Aguate était la première ville du Sahara, c'était la première ville algérienne en réalité. Il n'y avait pas de Français, c'était pas une création coloniale, c'était une ville qui avait déjà 8 siècles d'existence. C'était la place forte des Algériens, de la résistance algérienne. Et c'est la bataille du décembre 1852 qui a eu à l'Aguate. Et on dit que la prise de l'Aguate par la France, c'était la deuxième prise d'Alger, pour vous dire la place stratégique. Par la suite, en 1861, Tayeb Bouchendoura, qui est, si vous voulez, un résistant. Et tout le monde était résistant à cette époque-là. Oui. Personne n'acceptait la France à cette époque-là. Donc, Tayeb Bouchendoura a attaqué, si vous voulez, la petite bourgade de Jelfa. Il a fait une petite échafourée, etc. Et il s'était sauvé avec ses compagnons. Et c'était le commandant de Sonis qui était à la place forte de la Gouate, qui a été ameuté par les sémaphores lumineux et qui est revenu de la Gouate vers Djelfa pour essayer d'intercepter les fuyards. Et il les a capturés, il en a capturé 16, mais il n'y avait pas Taïbou Chendoura. Oui. Taïbou Chendoura a disparu.
On a compris qu'ils n'ont jamais cessé de s'insurger contre le colonialisme. Alors, monsieur Ahmed Khaybdin, dans votre ouvrage, vous parlez évidemment beaucoup de tribus. Il y a deux tribus prédominantes, c'est les Zouled Naïl et les Sahari. Alors, est-ce qu'il y en avait d'autres ou pourquoi l'une était plus importante que l'autre?
En fait, il y avait pas, on ne distinguait pas deux tribus. En fait, ici, dans notre région, il y a une confédération de tribus. C'est plusieurs tribus qui sont regroupées sous une même bannière pour des questions de survie, pour des questions d'entraide, de solidarité. Donc les Zouled Naïl sont la tribu autour de laquelle se sont agglutinés et alliés d'autres tribus, dont les Sahali justement. Les Sahali, les Zouled Ben Aliya, etc. Il y en a plusieurs qui sont comme ça, qui se sont alliés, qui ont adopté la même couleur de la tente. Et il y a eu beaucoup de mariages entre les tribus, et il n'y avait pas une tribu qui prédominait des autres. Il y avait la même autorité, le même respect pour chacune des tribus, et il y avait de multiples mariages entre eux. Et on ne peut pas parler de tribus distinctes maintenant, mais d'un groupe social homogène. Voilà.
Alors, Naïl crée la polémique. On dit qu'il viendrait de l'Andalousie ou alors de Sarriyat al-Hamra. Qui est-il, ce Naïl?
Bon, ce qui est sûr, ce qu'on a trouvé dans la littérature, personnellement, je n'ai jamais rencontré un Naïl provenant d'Andalousie. Mais j'ai rencontré un Naïl qui était prince chérifien, qui était le cousin du roi à son époque, c'est-à-dire à cheval entre le 15e et le 16e siècle, qui a entraîné le roi du Maroc à cette époque-là dans une guerre contre le royaume de Qairawan. Et au cours de cette guerre, le roi du Maroc était mort, et Sidi Naïl, enfin, qui s'appelait Mohamed Ben Abdallah Al-Khurshfi à cette époque-là, il ne s'appelait pas encore Naïl, parce que Naïl, c'est un surnom. C'est un surnom que Sidi Ahmed Ben Youssef de Miliana lui a donné. Donc Mohamed Ben Abdallah Al-Khurshfi n'est pas revenu au Maroc, craignant probablement une vindicte ou quelque chose dans ce goût-là, mais il est resté à Miliana, où il a terminé ses études chez Sidi Ahmed Ben Youssef. Ensuite, il s'est installé du côté de Boussaada, où il a créé une grande université pour enseigner les sciences coraniques, etc. Voilà à peu près l'origine de notre grand-père, notre vénérable grand-père, Sidi Naïl, et qui, autour de son nom et autour de sa tante, se sont regroupés plusieurs chiirs et plusieurs adeptes. Voilà.
Il aurait eu beaucoup de fils, ce qui a donné une grande communauté.
Il a eu cinq garçons. Il a eu Issa, il a eu Zakaria, il a eu Yahya, il y a eu Abu Layth, il y a eu Malik ou Mlik. Mm-hmm. Voilà, les cinq.
Dans votre ouvrage, vous consacrez deux belles pages justement à cette tribu Naïlia. Justement, parce que dans la littérature coloniale, on a très souvent réduit la tribu des Zouled Naïl à une image plutôt néfaste, à la déperdition, à la prostitution même.
Évidemment, madame, quand on a un ennemi en face, on essaye de le dévaloriser. Les Zouled Naïl ont été des combattants farouches, des guerriers irréductibles. Ils étaient aux côtés de l'émir Abdelkader, ils étaient les meilleurs guerriers de l'émir Abdelkader. D'ailleurs, l'émir Abdelkader avait dit une chose qui est merveilleuse vis-à-vis des Zouled Naïl. Il avait dit « Dans mes troupes, tout le monde m'a trompé, y compris ma famille. Il n'y a eu que les Zouled Naïl qui m'ont été toujours fidèles. » Donc vous voyez, c'est une éloge qui provient d'un homme aussi immense. C'est une grande phrase. Donc évidemment, la France, quand elle a eu en face d'elle des troupes de cette trempe, elle a essayé de les dévaloriser. Premièrement, elle a adopté ce qu'elle avait adopté avec l'ensemble du peuple algérien, c'est-à-dire la guerre et la paupérisation totale, pour que, misérable, elle ne peut pas résister. Réduire à la pauvreté, Et quand le peuple, quand une société est réduite à la pauvreté, elle n'a qu'un seul combat à mener, c'est couvrir sa survie. Et en deuxième lieu, à part la pauvreté, elle a essayé de la dévaloriser, si vous permettez, en l'émasculant, en lui jetant une étiquette pour dire que vos filles ou vos femmes sont des prostituées. Alors que ce phénomène de prostitution n'a été qu'une conséquence de la pauvreté concernant les pauvres orphelines qui n'avaient plus de quoi se subvenir. Et la France a saisi cette image pour la projeter sur un ensemble de la population algérienne. Voilà, voilà ce que vous voulez.
Avec le concours des plasticiens, des artistes peintres.
Évidemment, on dit que, pas uniquement les artistes peintres, on dit que les orientalistes d'une manière générale, qu'ils soient dans la littérature ou la peinture, ont exercé un effet néfaste concernant... ils ont aidé la colonisation, ils ont aidé le mouvement colonial. On fait allusion à Nasreddin Dine. Évidemment, il y a des planches de Hajj Nasreddin Dine, il y a des planches où on voit des nudités, on voit des anatomies qui ne sont pas dans les mœurs, si vous voulez, de notre population. C'est cet esprit d'exagération de l'artiste qui a vu l'exotisme dans ce sens-là, qui a, si vous voulez, jeté une image néfaste sur la population.
Monsieur Ahmed Khaïfdine, comment était érigée la structure de la tribu? Est-ce qu'il y avait un pouvoir seigneurial? Comment c'était?
Vous savez, comparativement, quand les Anglais ont envahi les États-Unis actuels, l'Amérique du Nord, ils ont trouvé devant eux des tribus installées, des tribus traditionnelles installées, des tribus indiennes installées, et on les appelait les nations indiennes. Les nations, pourquoi? Quand on dit une nation, qu'est-ce que c'est? Une nation, c'est d'abord un peuple, mais un peuple autonome, c'est-à-dire qui n'a pas besoin d'apport extérieur pour pouvoir vivre. Chez nous, les tribus étaient également des nations. Les tribus avaient leurs guerriers. Ils avaient leurs talebs qui officiaient à l'école, à l'enseignement, aux affaires religieuses, etc. Ils avaient leurs guerriers, c'est-à-dire la défense. Ils avaient leur forgeron qui leur faisait tout ce qu'il fallait comme bijoux, comme armes, comme ceci. Donc c'était des nations. Et la nation, évidemment, elle est dirigée par un conseil. Et c'était le conseil des vieux, le conseil des anciens, le conseil des sages. Voilà comment était régie la...
Donc ça fait partie de la culture et des valeurs nomades. Il y en a encore quelques-unes. Et que reste-t-il aujourd'hui? Quels sont les vestiges de ce patrimoine?
L'autre jour, il y avait un ingénieur de l'Institut national de la recherche agronomique. On discutait sur le problème du devenir socio-économique de la population. Économique, il y a transformation de l'économie, une mutation de l'économie pastorale, et sociaux parce que la société change de mode de vie en même temps. Vous savez que nous avons reçu pendant les 30 dernières années des années difficiles en matière de sécheresse, c'est-à-dire les aléas climatiques ont poussé la population vers les villes. Il y a un exode rural qui s'est opéré. Et puis il y a l'insécurité de la dernière décennie que nous avons subie atroce décennie, qui a poussé également les gens à habiter la ville, donc un exode rural. Donc il y a une transformation du mode de vie de ces gens qui habitaient à l'extérieur, dans la campagne. Donc il y a un déséquilibre entre la ville et la campagne qui s'est opéré. Et ce déséquilibre, justement, nous devrions être suffisamment lucides pour pouvoir le gérer, pour que les autorités ne soient pas dépassées en matière d'agglomération, en matière d'assainissement, d'eau potable, etc., etc., au moyen de vie. Donc, mais il y a la mentalité qui est restée. Et c'est ça la question que vous me posez. La mentalité du campagnard, elle existe toujours. Et même s'il habite actuellement dans la ville, il a toujours tendance à revenir vers la campagne dans un mode de vie dans lequel il était habitué, auquel il était habitué et qu'il voudrait toujours retrouver. Voilà ce que...
Pour terminer, quelles sont les valeurs qu'il a gardées ?
Évidemment, je vous dirais qu'en matière de bédouinité et en matière de société pastorale qui existait avant l'arrivée de la France, les tribus avaient des valeurs. Ce sont des valeurs d'honneur, des valeurs de bravoure, des valeurs de solidarité, des valeurs d'entraide, des valeurs de conservation, la conservation des valeurs religieuses, des valeurs communautaires. Mais quand il y a eu la pénétration de la France, elle a joué justement sur ces divisions tribales pour pouvoir les diviser davantage et introduire des antivaleurs au niveau de l'individu, pour qu'il soit plus solidaire de sa tribu, pour qu'il soit plus solidaire de sa communauté, pour qu'il soit toujours hypocrite, pour qu'il tire toujours un égoïsme, pour développer son égoïsme. Mais ce qui est resté des valeurs bédouines d'avant, il est resté toujours les valeurs de bravoure, les valeurs d'honneur. Voilà les valeurs de patriotisme après la révolution de 54.
Alors, on va terminer sur la poésie, puisque vous êtes poète aussi, Ahmed Khairdine. Je rappelle que nous sommes ici à Jelfa. Donc, c'est le Sha'al Manhoun.
Vous savez que la société pastorale a une forme de communication, c'est la forme orale. C'est l'oralité qui transporte tous les messages qu'on voudrait donner aux autres. Et le verbal et l'oralité est basé principalement sur Sha'al Manhoun. Les Arabes ont toujours eu l'âme sensible. C'est toujours de grands rêveurs. Que vous les preniez du golfe Persique jusqu'à l'Atlantique, c'est toujours des poètes. Je vous dirais que dernièrement, au cours du siècle, à cheval sur le siècle dernier, en même temps que Mohamed Bechrif d'ailleurs, il était contemporain de Mohamed Bechrif, nous avions à la Gouate un immense poète. C'est celui qui est le plus connu, parce qu'à Jelfa aussi, il y a énormément de poètes qui sont d'un haut niveau du point de vue poétique. Mais celui-ci, c'est, si vous voulez, c'est le nec plus ultra, c'est le grand artiste. C'est Abdallah Belkerreou. Bon, il y a Khalif Ahmed qui chante une de ses chansons, Qamr al-Layl Khwatri Tounesbi, je ne sais pas quoi, enfin, quelque chose comme ça. Vous avez dû l'entendre déjà.
On a parlé de poésie, la danse aussi qui est particulière ici.
Oui, la danse, elle exprime dans la région des Oued Naïl, on ne danse pas en groupe. Il y a des danses individuelles ou des danses par couple. Et ce qui est une particularité de la région, parce que dans les autres régions, on ne danse pas par couple. Il n'y a que dans cette région-là où l'on danse par couple. Si vous assistez à une chorégraphie interprétée par deux bons artistes, un couple d'artistes, vous allez être émerveillé par le gestuel, par les messages qui sont communiqués par le gestuel dans la danse. C'est absolument magnifique. Et ça raconte toujours les histoires entre l'homme et la femme depuis la nuit des temps, chez tous les peuples.
Merci, monsieur Ahmed Khairdine. Je vous rappelle le titre de votre ouvrage, Rocher de sel, une biographie romancée, édité chez l'Harmattan.
الجبار شيخ يحن عليا
Jalfa, région pastorale où le mouton fait partie du patrimoine culturel et économique. Nous avons été invités chez Monsieur Jha El Khabir, éleveur de moutons dans la wilaya donc de Jalfa, et autour d'un traditionnel couscous au mouton, il nous raconte les différentes étapes, sa vie de nomade, ce patrimoine qui se fragilise. Nous sommes reçus chez Jha El Khabir, éleveur de moutons dans la wilaya de Jalfa. Jalfa, la région agro-pastorale où le mouton fait partie donc du patrimoine culturel et économique. Hajj, nchokrok ala l'istiqbal. Nta mouel. Chha عندك من سنه وانت موال؟
انا في الاول كنت بوشي وفي 69 عدت موال.
On va parler donc d'élevage. Les races de moutons qu'il y a justement dans la région, il y en a combien ?
Les noix entre les soulelettes, quatre noix. Qu'il y a une noix entre les malakwat ou le karb. Qu'il y a le ham entre les rgik chouya. Ou qu'il y a le charg entre les djellal, il y a le ham entre les chines ou le djinnage chine. ويجيب ما فيها الصوف بزاف يجي الصوف نتاعها كي الحرير ويوقع فيها شوي المرض هي أما القلم نتاع ما بين الجلفة والأقواط القلم لون آخر يقولوا الصوف نتاعها جلفة البطمة معناه جلفة البطمة هذه يعود الصوف بزاف ما تمرش النعجة مكسية مليح فهمتي هذه اللي
كان ربعة
سلالات
ربعة سلالات
كاين الرامبي
سميهم
كاين الرامبي وكاين الحمراء وكاين نتاع ولاد جلال وكاين تاع عظميت هذون ربع انواع
قالوا لنا بلي هاد السلالات بعتوهم شويه للخارج ولاد ولا كانوا اصلهم منا
الاصل نتاعهم منا كوستراليا في روحها ما تدير المال من الجزائر من الجلفه كوستراليا في روحها راها مديه
Éleveur d'ovins, quelles sont les étapes que traverse justement cet élevage?
Le chourouf a 3 jours, il n'y a pas d'amour. Il y a 3 jours, 4. Il y a 4 jours, il y a 3, il n'y a pas d'amour.
Donc après 3 à 4 mois, quand l'agneau est sevré, on l'enlève à sa maman.
Il y a 1000 ou 1.
À partir de là, il pâture tout seul.
يبدا يعلف فيه مولاه وحده والنعجة تريح سمعت تعاود تريح النعجة
اي دونك لا بروبي ريبران دي فورس
الكبش الكبير على عامين يعود كبش قادر
concernant le mouton il faut compter à peu près 2 ans pour qu'il soit un bélier qu'il soit reproducteur
قلنا الكبش على عامين يعود كبير يعود كبش قادر فهمت والنعجة رانا قلنا على 4 شهور ينحولها بنها تريح كي يوفي العام وشهر يولي ثني وعنده زوج سنات
عام
وشهر
après 13 mois le mouton devient ce qu'on appelle chez nous un ثني
ومن بعد العام الاخر على 24 شهر يعود ربع عنده ربع سنات
donc à 24 mois c'est ربع donc par rapport aussi à la pousse des dents
وعلى 6 سنين يعود عنده 6 سنين كل عام بسنة
كيش يسمو
السداس.
Alors le SDES a après 6 ans et donc il a 6 dents. Voilà, 6 ans, il a 6 dents.
الحاج, la tonte de la laine, c'est l'occasion aussi de faire la grande fête.
تاع الصوف نتاع الصوف نتاع تاع الميت. يجي يخدموا به البرنوس نتاع بكري, برنوس الزين والمطارح يجوا فيه ويخدموا به البيت. يخدموها بالشعر ثاني تاع المعيز.
صح واش مفصل وين يبداو ينحلوا الصوف
يعني وين تجزوا وين يخدموا المقاصه
في الربيع في يبرير الشهر نتاع يبرير يخدموا فيه
دونك لا tonte dans la région s'effectue en général vers le mois d'avril au printemps
نص الربيع يزجوا القلم وعاودوا يطلوها وعاودوا يدووها وتريح القلم من الصوف ذاك والصوف يخدموا به تقاليد نتاع بكري والصوف راه رخيص
انا نقول الحاجه لك
اسمع الصوف راه رخيص وكان يديروا له وزنوات راه كاين بجود بزاف وراه السومه نتاعو هبط راه كان يلقاو له الوزنوات يخدموا به حتى الخدمه نتاع الصوف زين الكتان نتاع الصوف خير من الكتان الاخر
واش من الصوف هو المخير كاع
المخير الصوف نتاع تاع ضميت هو اللي الصوف نتاع يجي نتاع البرانيس نتاع المطارح يجي على كل لون
دونك تاع دميت سي اون اسبيس
نو ما شو يبوندي
سي لا لين دو تاع دميت كي لونغ ني با كاسابل
يديروا الطعام واللحم ويفرحوا بزاف وكي يزجوا النعاج وساعة يجيبوا الكباش يعاودوا يديروا لهم الرفيس ويعاودوا يديروا لهم الكعبوش ويعاودوا يديروا فرحين بالكباش على خاطرش الكباش هما اللي يجيبوا القلم
شحال خطير كي سو لي ريسك دو سو ميتي
طبيعه الطبيعه من فوق يخدموا القلم بدون ما يكسبوها يعيشوا منها دايرينها مهنه باش يعيشوا منها وربوا منها اولادهم وسقلت بهم الجزائر هما اللي كانوا يوكلوا الناس في المجاهدين باللحم وبالصوف وبالقشبيه والنعجه هي الربح هي الربح في الدولة الجزائرية الصعوبات من الجفاف من الجفاف والأرض ملكتها ناس أخرى اللي كانت ملكتها الدولة كانت تفلى فيها الناس ملكتها ناس أخرين سمعت داروا سلاح الأراضي القانون الجديد داروا سلاح الأراضي استولى على الأرض نتاع الموالين
دونك ان دي دي بروبليم دو سو ميتيي سي سوفون لا سيشريس اي اوسي لو فات كو لي باتوراج سون ديفينو دي dans certaines régions privées donc il y a un manque de pâturage.
وفي عهد فرنسا كانت محدده الارض.
Donc à l'époque coloniale les zones de parcours étaient bien délimitées.
القلم تروح للتل تاكل بالمزيه لا كريه لا والو الكولوني دي الزرع نتاعو القلم تفلى على خاطرش ترب الصوف وترب الباء باش يعود فيها الحليب البنها كي تاكل تاكل الفنان اليوم راه استولات على الارض ناس اخرى صح داو سلاح الاراضي داو يعني امور ما لقاش النعجه وين تفلى اليوم راه النعجه تاكل قفل المجور
صح دونك سي الحاج دي كو بوندون لا بيريود كولونيال لي il y avait des transhumants jusqu'au tel et les troupeaux pouvaient pâturer sur le tel
est-ce qu'il y a beaucoup d'éleveurs ici à Jelfa
صحاب جلفا بزاف بشبه موالين يخدموا القلم البر بصح القلم راهم رايحين يبطلوها الناس
وعلاش
ما ولاش تخرجهم ولات فيها المصاريف بزاف يجيبوا الماس تيرنا ب 50000 ب 60000 نتاع الماء وطلبنا يعني الوزير باش يعاونوا يجبدوا لنا الماء بزاف في كل منطقه
باش
ايه ماذا بينا تعاوننا ما تعاوناش بالدعم تعاوننا بالماء توفرنا الماء بزاف وين يروح الماء يشرب
Thank you.
القلم عايش منها كل واحد ميم حتى الولاية كل سوق كل سوق كاين السوق اللي تبيعوا بربع ملاير كاين بخمسة كاين بعشرة على حسب الأسواق كما ولاية جلفة عندنا بحبح بسومة كبيرة عندنا الجلفة بسومة كبيرة عندنا مسعد سومة ثاني عندنا 36 بلدية تقريب منها 20 بلدية هذه كلها تسلك المكس راك فاهم
دخل مواليد
دخل الدولة صوارد كبيرة يوميا وتروح للبيطوار ثاني تسلك سمعت تسلك خير وبركة يعطوها في البيطوار للدولة النعجة رابحة منها الدولة بالشعب
دونك يدي كو Dans le système économique qui est en rapport avec l'élevage du mouton, il y a beaucoup de ressources qui vont à l'État, comme par exemple les abattoirs, les marchés municipaux, etc., sans compter les autres métiers en rapport avec l'élevage du mouton.
حوايج سرقة لا والو الناس حلايليين يخدموا قلق مساكين لاهين بها فقط لا مش لاهين حتى بحاجة بالصح محتاجين بزاف وكان توفرنا الدولة المعيشة نتاع القلم من الخارج خاطرش عندنا الجفاف بزاف وماذا بينا الدولة يعني رانا تاكلين على رجالة يهنونا في الدولة راهم واقفين رانا قبل في عهد فرنسا كنا نروحوا للصحراء كانت تموتنا القلم كيس قلينا الحمد لله كثر خير الوزارة جابوا لنا الطيوطات من الخارج جابوا لنا الكماين جابوا لنا يعني رانا نحمد ربي ونشكروه بالصح رانا محتاجين دروك محتاجين المعيشة للقلم ما لقاش وين تفلا الناس سلاح الأراضي دا الأرض راك فهمت وقعت القلم تحتاج قال مجور فيه والماء نشرو بخمسين ألف لستيرنا كاين أحيان بعيد 120 ألف لستيرنا
صح دونك alors الحاج dit que parmi les problèmes concernant l'élevage du mouton dans la wilaya de Djelfa et peut-être dans d'autres wilayas c'est principalement le problème de pâturage bon il y a un manque de zones de pâturage et de parcours un manque de points d'eau voilà c'est en gros les principaux obstacles à disons une activité continue concernant l'élevage ovin. Bon, d'autre part, il y a aussi, bien sûr, il nous l'avait dit tout à l'heure, Al-Hajj, il y a aussi un tas de corporations de métiers en rapport avec l'élevage du mouton. On peut parler du tondeur, de celui qui fait la traite des brebis, de celui qui carde et qui nettoie la laine pour la vendre, de la tannerie. Donc c'est vraiment tout un univers et tout, il y a toute une dimension économique en rapport, encore une fois, avec cette production animale.
احنا رانا تاكلين ان شاء الله على ربي والدولة تكون يعني واقفة معنا وحنا نعود واقفين مع الدولة ماذا بينا يعني تكون يعني جبنا الشعير بزاف من الخارج رانا نشرو فيه مارشينوار راه يعني يسوى 200 ألف الشعير رانا ما لحقناش والسوق عندنا ميت من القلم ماهيش تتباع لنا لو كان ما تعاوناش الدولة تبيع الناس كل المال تاعها وتجي داخل المدينة راه صايرة قريب بالفوضى في هذه المصيبة هذه لخطرش الجفاف ورانا تاكلين على الدولة وعلى ربي إن شاء الله رجالة مخلصين يحيروا فينا قبل أن نقبنوا
صح دونك سي الحاج فان أبل على l'État pour essayer de d'obtenir au moins une aide par rapport à la saison passée qui a été une saison de sécheresse principalement concernant un aliment stratégique dans l'élevage du mouton c'est l'orge
ويلزم هذا ستوكي الشعير بزاف على خطرش تولد القلم في الشهر الجاي نتاع الخريف هذا إلى ما لقاش الماكلة يموت الخروف.
D'où la nécessité, comme il vient de le dire, de créer des stocks stratégiques d'orge pour l'engraissement.
يلزم يعود الستوك موجود باه يعود الموال وين لقى الشعير يشري. احنا رانا نشرو فيه مارشي نوار دروك. وما استولات عليه ناس أخرى. يلزم ثاني الدولة توقف. يلزم الشعير يديه الموال ما يديهش الإنسان اللي يبيع في الوسط.
Donc il dit que dans le disons la chaîne du producteur au consommateur concernant l'orge et encore une fois tous ces intermédiaires qui font que le prix de l'orge flambe voilà il demande que l'État soit plus présent concernant cette question. Oh,
قلبي يشتيق الصحر القربية ورفاقتي راهم زينين عبيد الله ومباركة ومجبر لا تنسى وقلبي يشتيق من الصقر والهيه واد الكبش ودنيا من ظهره والفزدة قابلت من هيه الواد القربي فيه الزاوية منا وفي وسطو في لاج مليح درك نطلعوا للحمادة شتينا ومن واد الناموس رانا دورنا نخرجوا على الابيض من ظهره والرقاصة نعملوا عنها نيشان نخرجوا على عين سيدي علي من ظهره من واد سيد النصر رانا قبلنا كف الحليات يبان ركبه ولا اثنين ومن البيضه رانا وردنا كف البيا يبان البعد منيل وقطيه ولا الجلفه انا جيناك توحشت الطاله والركبه يا ربي وقطيه هي العهد للميراد يا محل الفياض وناسو وانا مسلم للطايره واللي حاطه وحتى اللي فالي بشياهو
À l'instar des autres villes d'Algérie, la diversité culturelle de Jelfa nous oblige élégamment de vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour la quatrième et dernière partie. Et si vous êtes là, alors ce sera bien.
كظل الخيال صدت جدي الغزال بالزهد عنيا إذا تمشي بال تسلب العقال أختي باي المحال راشا قمية ما يسواش المال نقرات الخلخال كي نجبع اللحية نلقى حيزية نستحوج في المروج بخلا خيلة سوج عقلي منها ينوج قلبي وعضايا وقلبي سافر مع الله الحيزية عزوني يلا إلى يسلبنات سكنت تحت الحوت ناري مقدية وعزوني يملح في رايس لبنات سكنت تحت الحوت ناري مقدية وقلبي سافر مع الراح الحيزية نوار العطيل شوى النقضية ما شفنا من تلال قضل الخيال صدت جدي الغزال بالزهد عليا إذا تمشي قبال تسلب العقال أختي باي المحال راشا قمية ما يسواش المال نقرات الخلخال كي نشبع الأحيال نلقى حيزية نستحوج في المروج مخلا خيل تسوج عقلي منها يروج قلبي وعضايا بتل مصيفين جينا محدورين للصحراء قاصدين انايا وطوايا غابوا جحاف الدلال حطوا عينا زال سيدي لحسن قبال والزرقة هي يا حفار القبور سيسلم القور ما تطيحش الصخور على البنية حلفتك بالكتاب وحروف الوهاب ما تطيحش التراب على البنية يا حفار القبور سيسلم القور ما تطيحش الصخور على البنية على البنية 23 عام في عمر محرام منها راح الغرام ما عادش يحيا وقلبي سافر مع الراحة الحيزية عزوني يملح في رايس البنات سكنت تحت الحوت ناري مقدية وعزوني يملح في رايس البنات سكنت تحت الحوت ناري مقدية.